autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Nicolas Benita à la réalisation, pour nous interroger sur ce qu'on appelle désormais les méga-feux. De gigantesques incendies de forêts en Amazonie, en Sibérie, en Indonésie, en Californie, au Portugal. Pourquoi la forêt brûle avec une telle intensité et une telle ampleur? De quoi ces méga-feux sont-ils le symptôme? Pourquoi sont-ils si inquiétants? Et comment empêcher qu'ils ne se propagent dans l'autre poumon de la planète, dans les forêts du bassin du Congo qui brûlent, elles aussi? Autant de questions essentielle et urgente, ouverte par une philosophe, Joël Zask, notre invitée, dans un essai percutant, Quand la forêt brûle, qui nous met face à nos responsabilités et nous oblige à repenser dans toutes ces ambiguïtés entre domination et idéalisation, notre rapport avec une nature qui n'est que le résultat de nos interactions humaines et désormais industrielles. Comment reprendre soin de nos forêts pour échapper à une guerre du feu perdue d'avance? Autour de la question « Pourquoi la forêt brûle ?» Bienvenue. Bonjour Joël Zask.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes enseignante en philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Vous vous intéressez aux conditions d'une culture démocratique partagée. C'est ce qui vous a amené à travailler sur des domaines aussi différents que l'éducation, l'agriculture, la culture et bien sûr l'écologie. Mais ce n'est pas la seule raison qui vous a poussé, avant même les terribles feux qui ravagent et dont on parle tant, qui ravagent l'Amazonie, à vous pencher, Joël Zask, sur ce phénomène des méga-feux à travers cet essai terrible et inspirant, Quand la forêt brûle, que vous venez de publier aux éditions Premier Parallèle. Vous avez vous-même été témoin d'un violent incendie en France. C'était dans le Var en juillet 2017 et assisté à ces irrémédiables dégâts.
Oui, en effet, plus exactement, j'ai assisté à la forêt dévastée par les flammes et non pas au feu lui-même. Et c'est vraiment l'épreuve de cette dévastation qui m'a mis sur la voie finalement d'un travail en quelque sorte de reconstruction dont le résultat est ce livre. Et j'ai d'une certaine façon éprouvé la perte du paysage comme une perte de soi, comme une amputation, comme une désorientation, comme l'épreuve d'une désolation, je crois que le terme est important, et qui m'a fait penser qu'il y avait quelque chose d'anormal finalement dans ces feux, à une époque où, ça fait plus de 2 ans maintenant, à une époque où la vulgate était que les feux sont bons pour la forêt, que les feux sont naturels, qu'ils font partie des cycles naturels. Et même si ça peut être le cas, le fait est que en étudiant, les feux de forêt, du point de vue de cette expérience de perte et de désolation, je me suis rendu compte qu'il existait un nouveau régime du feu aujourd'hui, dont on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'a pas été identifié plus rapidement, pourquoi il n'est pas plus présent dans la conscience des gens.
Ce sont ces méga-feux.
Et ce sont justement ces méga-feux, ces feux qui, loin d'être bons pour la forêt, produisent au contraire des dévastations qui sont, semble-t-il, au moins à 50% irréversible. Donc quand on voit par exemple en Provence des feux qui ont brûlé jusqu'à la souche des grands arbres, ainsi que leurs racines principales laissant de grandes cavités dans lesquelles il faut faire attention de ne pas tomber, on se dit quelque chose ne va plus.
Et c'est pour ça que vous dites, on va le développer, que ces méga-feux sont le symptôme d'une société malade.
Sont le symptôme d'une société qui ne voit pas ce qu'elle produit, sont le symptôme, j'aurais envie d'utiliser cette métaphore, d'une société enfumée.
Et le fait est que. Une société enfumée.
Enfumée
dans le noir, dans le brouillard.
Dans le brouillard. Et ces feux de forêt qui asphyxient, font suffoquer et plongent dans le noir, effectivement, un grand nombre, des millions de gens aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on en a parlé à propos de l'Amazonie, puisque c'est bien la population de Sao Paulo et les médias de Sao Paulo, suffoqués elles aussi, qui ont attiré l'attention sur le fait que l'Amazonie était en train de brûler à une échelle jamais vue. Mais c'est également le fait que les gens suffoquent à air Irkoutsk qui a attiré l'attention des
en
médias
Sibérie,
sur les feux en Sibérie. Voilà, sur les immenses feux de Sibérie. C'est le cas aujourd'hui de Singapour. Aujourd'hui, les habitants de Singapour suffoquent à cause de feux de Sumatra et de Bornéo et se renvoient finalement les responsabilités entre plusieurs pays, Vietnam, Indonésie, etc. Donc on est une société malade au sens où elle suffoque. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que s'il existe une carte effectivement des foyers, du nombre de foyers sur la planète et aussi de la manière dont ils se rapprochent les uns des autres, il n'existe pas encore de carte des fumées, mais il se trouve que les fumées se rapprochent et que ce fog dans lequel nous sommes plongés à cause de la pollution est considérablement aggravé par les fumées qu'émettent les immenses feux de forêt. C'est tout le cercle arctique qui est dans la fumée et les neiges également. Donc cette société, je pense que l'image de la fumée, elle est à la fois physique et mentale. C'est-à-dire qu'on est enfumé, on s'enfume soi-même et du coup ce qu'on produit, c'est un écran de fumée. Et cet écran
de fumée... Alors tout le monde n'est pas aussi enfumé que ça, vous en l'occurrence, Joël Zask. Et c'est bien pour ça que vous nous alertez en tant que philosophe. Il y a aussi des écrivains, une romancière notamment, qui nous alerte. Monica Sabolo vient de publier en cette rentrée un roman qui s'intitule Eden et qui se déroule précisément dans la forêt amazonienne, dans une ambiance enfumée, incendiaire. Elle était l'invitée de François Bunel dans la Grande Librairie sur France 5. Je propose de l'écouter.
En voyant ces images de l'Amazonie en feu, il y a quelque chose qui brûle en nous. Ça nous est vraiment intolérable. Mais c'est là justement où je reviens à ce que je disais, cette sensation d'appartenir à cette forêt, à cette nature, le lieu des origines. Le paradis perdu, il y a quelque chose, parce que c'est cette extériorité-là. Et je pense que ça crée une angoisse, mais insupportable. Bien entendu, elle avait déjà brûlé auparavant. Mais là, c'est comme une fin du monde, c'est une incapacité à se projeter. Et les jeunes adolescents de ce livre ne peuvent pas se projeter. Il y a ce bruit de ces tronçonneuses. Comment rêver à un avenir, hein ? C'est la désolation, c'est un désert extérieur et intérieur.
Un désert extérieur et intérieur qui nous coupe le souffle et qui nous sidère, Joël Zask, qu'on le vive ou qu'on le voit sur nos postes de télévision.
Alors effectivement, il y a un effet de sidération, de fascination qui est exercé par le feu. Ça, tout le monde le sait, tout le monde l'expérimente. Et il y a quelque chose, effectivement, de tout à fait envoûtant dans la danse des flammes sous les yeux. Évidemment, envoûtement qui aussi mobilise les pyromanes et agite leur tréfonds de désir de toute puissance. Donc ça, c'est un autre aspect aussi.
Oui, parce que la plupart de ces feux, on y reviendra, sont déclenchés par des hommes.
Oui, la quasi-totalité des feux sont liés à des activités humaines, mais toutes sortes d'activités, dont des activités accidentelles. Là, effectivement, on pourra y revenir. Mais très clairement, les gens qui restent au contact des flammes ont, comme le dit très bien l'extrait qu'on vient d'entendre, ont le sentiment d'avoir tout perdu. C'est-à-dire ont le sentiment que leur vie intérieure, qui est faite à la fois de souvenirs et de projets, de projections, de projections dans l'avenir, que cette vie intérieure, finalement, est coupée de l'environnement qui lui est nécessaire pour s'épanouir. Parce que, comme le disent aussi des victimes de Paradise, par exemple, de Campfire...
Paradise, Campfire, ouais. En Californie, ça c'était en novembre 2018, oui. La ville de Paradise, le paradis, oui. Rasé.
A été rasé et effectivement on tombe
dans le pays le plus riche de la planète.
Oui, ça tout à fait. Et donc il y a beaucoup de groupes de parole qui se sont constitués pour justement que les victimes s'entraident. Plus de 70 000 d'entre elles sont en soins psychiatriques ou psychologiques aujourd'hui, tellement elles ont été choquées et bouleversées. Et j'ai pu lire. Comment est-il possible qu'une ville, comment Dieu peut-il laisser brûler une ville qui s'appelle Paradise, enfin des phrases comme ça qui sont extrêmement touchantes, mais également des propos de gens dont la maison, disent-ils, malheureusement n'a pas brûlé, et qui vivent au milieu des décombres, qui vivent dans un environnement, qui sont obligés d'y vivre puisque l'assurance ne prend pas en charge leur déménagement, et qui sont obligés de vivre dans un environnement qui n'est plus le leur, dans lequel à la fois effectivement leurs souvenirs et leurs projets s'évanouissent complètement. Et c'est à cette sujet, réduction en cendres, en quelque sorte, de sa vie intérieure qu'on expérimente avec le passage du feu.
Précisément, je vais vous faire entendre le témoignage d'un habitant de Paradis, et donc de cette ville nommée Paradis qui n'existe plus, extrait d'un reportage diffusé sur France TV Info.
Welcome to my nightmare. Bienvenue dans mon cauchemar.
This was the entrance way.
Pour entrer, c'était par là.
This used to be our front porch.
Ici, il y avait le porche.
And the stairway was
là,
right
c'était
there.
L'escalier.
You walk up and that stove was sitting.
Ce poêle était là contre le mur de la cuisine.
There's our double oven.
Là, il y avait un double four. Ici, on voit encore les casseroles.
It was a two-story house.
C'était une maison de deux étages. Construite il y a plus d'un siècle.
C'est quoi ça?
Ouais, quelque chose qui a fondu, je sais même pas quoi. C'est ce qui reste de ma maison. J'arrive même pas à la reconnaître. Quel gâchis. C'était une belle maison avec une belle vue. Mes animaux aussi ont brûlé. La plupart des poules, les chèvres. Regarde ma chaîne Hi-Fi. Enfin, ce qu'il en reste.
Yeah, that was a good
c'était un bon ampli, ça. Hein.
My books.
Mes livres.
I love to read.
J'aime lire.
All my books.
Tous mes livres partis en fumée.
How do you feel? Comment vous vous sentez?
Pretty empty.
Plutôt vide.
Pretty empty.
Plutôt vide.
Vous voulez réagir à ce témoignage effrayant?
Oui, mais c'est effrayant, mais en même temps, c'est la réalité de dizaines de milliers de gens et on n'en parle pas non plus. Et je pense qu'il y a comme un lien entre le fait qu'on ne parle pas des grands feux, de ce qu'il s'agit encore une fois d'un style de feu inédit et de la détresse des gens. On parle de toutes sortes de choses, on parle de la lutte contre les flammes, on parle de la guerre contre le feu, on parle de l'héroïsme des pompiers, on parle de la responsabilité de ceux qui ne sont pas nécessairement responsables d'ailleurs, notamment les petits paysans, mais on ne parle pas justement de ce que ça fait au psychisme des gens, ça leur esquinte l'âme. Et du coup, il y a un contraste quand on vit le feu ou même la désolation, la destruction d'un paysage connu et aimé. Disons qu'on ne retrouve aucun écho de cette détresse-là dans disons la communication concernant à la fois l'écologie des feux et les accidents qui sont provoqués par les feux de forêt.
Mais même quand elle est aussi spectaculaire, de fait, hein, parce qu'il y a eu énormément de méga-feux cet été, même quand elle est aussi spectaculaire qu'on la voit en image, on a l'impression qu'on est tous saisis, mais finalement ça passe aussi vite et on n'aborde pas, on est toujours en fumée finalement. On n'aborde pas vraiment les vraies questions que ça soulève et que ça devrait nous poser de notre rapport à cette nature, à cette forêt, et l'effet qu'ont ces méga-feux.
Oui, l'effet qu'ont ces méga-feux et qui, encore une fois, touche quand même, là, par exemple, des dizaines de milliers de gens. Et quand je dis des dizaines, c'est une méthode parce que, par exemple, on sait que 150 000 personnes aujourd'hui en Indonésie sont frappées de maladies pulmonaires qui sont liées à leur suffocation qui dure depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment aussi, si on veut savoir quoi faire et comment réagir.
Parce qu'on va y lire, bien sûr.
Bien sûr. Donc, si on veut savoir comment réagir, comment se situer par rapport à ce phénomène, au lieu d'embrasser une technologie prétendument triomphante, s'inquiéter aussi des effets psychologiques et des effets sanitaires des méga-feux. Parce que ces effets font partie du problème. Ce qu'on sait, c'est que les méga-feux sont liés au réchauffement climatique, mais qu'ils ont un impact, en quelque sorte, en boomerang sur une civilisation qui n'a pas su d'une certaine façon se cultiver elle-même et qui frappe de manière très violente des gens alors même qu'on continue de le passer sous silence. Donc ce silence, si vous voulez, il est en quelque sorte en miroir par rapport au silence qui entoure finalement l'identification du phénomène du méga-feu.
Voilà, le méga-feu, le phénomène du méga-feu que vous analysez, c'est particulier, c'est très différent et au fond il n'y a pas un méga-feu, mais il y a des feux et des méga-feux. Enfin, plein de causes à ces méga-feux, c'est ça?
Oui. Alors déjà, je crois que c'est important de distinguer le méga-feu ou les méga-feux des feux traditionnels, des feux dirigés, de l'éco-buvage, des feux naturels qui sont provoqués par la foudre. Donc, il s'agit de feux beaucoup plus étendus, beaucoup plus intenses. Ils représenteraient à peu près 3% de l'ensemble des feux aujourd'hui. mais serait responsable de 90% des surfaces brûlées. Donc,
ah là, oui, c'est sans commune mesure.
Non, c'est absolument sans commune mesure. Donc, ils sont aussi beaucoup plus intenses. On l'a entendu à Paradise, tout a fondu, mais j'ai lu aussi que les barbecues eux-mêmes fondent. Donc, voilà, c'est une image comme ça qui est assez percutante.
Puisque c'est-à-dire que c'est intolérable, même pour un barbecue qui est fait pour faire du feu, justement.
Ouais, voilà. Donc, voilà, on est là, on atteint des hauteurs de température tout à fait sans précédent, qui sont complètement destructrices, non seulement des habitations, parfois des vies des animaux, mais également, bien sûr, de la biodiversité, de l'écosystème. Les sols sont complètement déstructurés après le passage de ces feux. Et il faudrait rajouter à ce système, ce régime des méga-feux, les feux de tourbe, les feux de tourbe asséchés, de tourbe sèche, comme il y en a justement en Amazonie aujourd'hui, dans toutes les forêts humides, les forêts tropicales. C'est le cas également en Indonésie. C'est le cas, bien sûr, dans tout le cercle arctique, la Sibérie, le Groenland, l'Alaska brûlent aujourd'hui.
Les feux de tourbe, c'est-à-dire quand il n'y a presque plus rien, ce ne sont plus des arbres. La tourbe, c'est la boue, c'est la terre.
Non, la tourbe, c'est un composé végétal qui est aussi un puits de carbone et notamment un puits de méthane qui est relâché dans l'atmosphère par dizaines de mégatonnes. Donc il y a même dans la lande britannique a brûlé il y a un an et demi aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans des phénomènes clairement liés au réchauffement climatique et à la crise écologique qu'on connaît, mais qui en même temps y contribuent de plus en plus lourdement, ce qu'on est en train aujourd'hui de mesurer.
Voilà pourquoi vous nous dites aussi dans cet ouvrage, on va en venir aux pistes, hein, parce qu'il n'est pas que catastrophique, même si le sujet est dramatique. Il ne l'est pas, il inspire aussi. Ben justement, un autre rapport. Vous dites qu'au fond, ces méga-feux nous imposent de penser à un autre rapport avec cette nature, parce qu'on est dans le fantasme, hein, par rapport à la nature et à la forêt notamment. Il y aurait une forêt primaire, vierge, un paradis perdu auquel on n'aurait jamais touché et qu'il faudrait laisser tel quel. Ou rebâtir ou habiter dans des cabanes dans les bois qui flamberaient aussi secs, ou bien alors on a un rapport complètement dominateur, ce qui est le cas de nos grandes industries, mais au fond on ne gère pas. Penser à un rapport à la nature et à la forêt, c'est réapprendre à la gérer parce que de toute façon, il faut bien la gérer.
Alors, je dirais peut-être pas la gérer, mais en prendre soin. Parce que la gestion, disons, contient une idée administrative et rationnelle qui n'est peut-être pas universelle, d'une part, et puis d'autre part, qui accompagne plutôt la pensée aménagiste et dominatrice, justement, qu'une pensée dialogique. Et je crois que c'est
qui dialogue, qui interagit. Dialogue.
Alors, maintenant, voilà, dans l'extrait qu'on a entendu, à propos de l'incendie d'Amazonie, on a entendu des termes tels que « je fais partie de la forêt vierge, mon origine, etc. » Donc là, je crois que c'est aussi un vocabulaire là, qui va tomber plutôt dans le registre d'une idéalisation de la nature. Et clairement, je ne pense pas que les aborigènes d'Australie ou les Premières Nations du Canada pensent la forêt comme originelle ou comme faisant partie d'eux ou comme leur appartenant ou comme source matricielle ou maternelle, etc. La forêt, c'est un milieu. La forêt, c'est un interlocuteur. Il y a beaucoup de textes que j'ai pu lire en anglais d'aborigènes d'Australie qui, justement, sans personnifier la forêt, lui vouent un culte, mais en même temps en prennent soin, l'entretiennent. L'expression qu'ils utilisent est celle de « cleaning country ». Ils font le ménage, comme nous on fait le ménage dans notre salon, mais on ne le fait pas dans notre environnement extérieur, pas plus sur nos trottoirs ou dans nos rues que dans nos forêts et dans nos parcs naturels, si vous voulez.
C'est une question d'entretien, d'attention, hein, dites-vous aussi.
Oui, alors pas de nettoyage au sens de purification. Mais si vous voulez, ce qui est particulier dans l'idée de cleaning ou d'entretien ou de care, même si le care a été pensé en relation avec le d'autres soin. Humains et pas tellement avec l'environnement physique qui est le nôtre, ce qui est important, c'est que, si vous voulez, dans l'entretien, on s'adresse à nos propres conditions d'existence, à nos propres intérêts en tant qu'espèce humaine ou en tant qu'individu, peu importe, mais en même temps, on veille au milieu de telle manière qu'il conserve une part d'imprévisible, de telle manière que les portes restent ouvertes, de telle manière que ses facultés, en quelque sorte, de renouvellement et de régénération soit laissé. Autrement dit, on entretient son indépendance. C'est exactement ça qui se passe à Éden. Il était question d'Éden. Adam à Éden.
Dans le jardin d'Éden.
Dans le jardin d'Éden. Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il cultive le jardin pour en tirer sa subsistance, mais en même temps, il prend soin du jardin. Il en est le gardien. Il en est le gardien, c'est-à-dire qu'il le protège. Non pas pour se l'approprier et que le jardin lui obéisse, mais pour que le jardin conserve son indépendance et sa liberté d'une certaine façon.
C'est vraiment un changement de rapport complet. À la fois individuel et personnel.
On parle de.
Et oui, donc on, oui. pourrait retrouver cela, mais en même temps, on fait absolument tout le contraire aujourd'hui.
Oui, et justement, ce contraire se retrouve aussi bien dans, disons, l'idéologie ou le paradigme de maîtrise de la nature et de suppression de l'imprévisible, voire de remplacement de la nature par une technologie, ce qui est un rêve très ancien. Hein. On l'a vu, par exemple, dès les années 1830-1840, de la part des sciences agronomiques, par exemple, qui rêvent de substituer au sol, à l'humus, une soupe d'intrants, hein, en se pensant qu'il n'y aura aucun problème. Donc, voilà, ça, c'est un rêve qui est très ancien, mais à l'autre extrême, l'idée, là, justement, cette vision romantique de la nature, cette vision de la nature comme origine et matrice, en quelque sorte, est tout aussi problématique. Et je pense que beaucoup de peuples, beaucoup de cultures, même si elles sont très différentes, y compris la culture hébraïque, d'ailleurs, ont eu cette... ce génie, simplement, de penser les interactions homme-nature sur le mode d'un questionnement réciproque, d'une collaboration, d'une coopération, d'une participation active, avec du donnant-donnant, avec de l'interface, avec des expériences qui parfois échouent, qui parfois sont pleines de succès, avec une intervention active mais qui n'est jamais destructrice, avec la reconnaissance de l'indépendance des phénomènes hors de nous, mais en même temps avec cette espèce de modestie qui tient justement à ce qu'on pourrait appeler tout simplement la logique expérimentale, qui est au fond du fond, ou le sein des sciences.
C'est-à-dire ce que nous expérimentons, je propose d'expérimenter à travers vos oreilles ce que vous venez de dire, Joël Zaks, en écoutant en créole La Té Noua, morceau signé Gérald Toto, chanson écrite il y a quelques années et que Gérald Toto a décidé de sortir en écho à nos temps présents dans son prochain album La Té Noua, la terre est à nous tous, Gérald Toto sur RFI.
Autour de la question.
Et si nous les rivés, nous ni parole, qu'on saute ni parole, pour dix sept attend l'humanité, tout nom c'est nom, tout nom mérité, respect.
Éloge de la Terre en créole martiniquais, signé Gérald Toto. Sur RFI, c'est pour vous, Joël Zaske, pour continuer de nous interroger autour du phénomène des méga-feux qui nous impose, comme vous le soulignez dans votre essai, de repenser notre rapport à la nature. Quand la forêt brûle, c'est le titre de votre essai percutant qui nous renvoie à nos ambiguïtés. On idéalise la nature ou la forêt primaire, mais on s'évertue à vouloir la dominer, à la gérer industriellement. Un vrai paradoxe que l'on voit à l'œuvre, que l'on voit partir en fumée, fumée aujourd'hui sur la planète, notamment dans la forêt amazonienne qui continue d'être ravagée par les flammes, malgré l'émoi que cela suscite, malgré les pressions internationales, mais c'est pas prêt de s'arrêter, car le problème, on commence à le comprendre en vous écoutant et en vous lisant, Joël Zask, c'est bien plus complexe qu'on l'imagine. Il n'y a pas les bons qui protègent la forêt et les méchants qui la détruisent. Enfin, il y a ça aussi, mais c'est plus compliqué que ça.
Oui, alors effectivement, je crois que comme le disait la chanson « La terre est à nous », bon, même si je ne suis pas une grande amie du registre de l'appropriation ou de la propriété, le fait est que le « nous » ici, il a son importance. Et que dans cette affaire de méga-feu, à nous tous, oui, et que dans cette affaire de méga-feu, il n'y a pas de « nous ». Il y a vraiment des individualités ou des entités qui ont des responsabilités énormes et qu'il faut distinguer avec soin de la multitude des peuples et des petites personnes qui font leur travail depuis parfois des millénaires de manière plus ou moins traditionnelle ou qui sont simplement des victimes d'actions prédatrices à la fois bien sûr du climat et de la terre mais également du nous, du vivre ensemble.
Donc là, je crois que des actions prédatrices des multinationales, de toutes ces entreprises qui déboient de ces entités-là pour l'identité, et d'entités gouvernementales aussi qui en sont complices. Et ça, c'est très différent des petits paysans, des petits agriculteurs que l'on accuse de brûler la forêt.
Voilà. Alors d'abord, ces petits agriculteurs, bon, il est clair que les conditions, disons, de sécheresse prolongée dans lesquelles sont plongées diverses parties du monde rendent plus problématique le recours au brûlage dirigé. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand même, l'interdiction des brûlages dirigés au nom, justement, d'une nature sanctuarisée, d'une nature mise sous cloche, d'une nature protégée, justement, de sociétés dites archaïques, dispensieuses, écologiquement stupides et ignorantes, notamment nos petits paysans ou les populations dites autochtones ou aborigènes. Disons que ce discours-là a mené à ce que les forêts s'encombrent de bois mort, de combustible.
Il n'y a pas eu d'entretien régulier.
Et donc, a imposé le non-entretien de la forêt au nom, encore une fois, de sa mise sous cloche, ce qui est catastrophique sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les forêts, il y a moins de forestiers, il y a moins de bûcherons, il y a moins de cueilleurs, il y a moins de chasseurs aussi peut-être, mais il y a aussi moins de gens, moins de pastoralisme, moins de gens qui savent y faire avec la forêt. Ce qu'on y trouve, c'est des urbains fatigués ou des touristes ou des gens en quête de loisirs ou de ressourcement, justement.
Là, vous parlez de nos forêts occidentales, mais si on revient en Amazonie, ce qu'on y trouve, c'est des multinationales qui veulent exploiter la forêt.
Tout à fait. Mais disons que le regard touristique sur la forêt amazonienne est, en quelque sorte, celui qui a été nécessaire pour faire émerger, en quelque sorte, le phénomène du méga-feu. C'est un regard, en fait, complètement fictif, puisque l'émoi est venu de l'idée que l'Amazonie, c'est le poumon de la planète, elle est associée, à cause de toutes sortes de films, de littérature, à, bien sûr, un certain nombre d'images et de symboles. Clairement, l'Amazonie est une forêt intrinsèquement précieuse, mais qui ne produit que 5% de l'oxygène mondial. Donc
c'est une autre question qui se pose autour de la question pourquoi la forêt brûle en Amazonie. Je propose de rentrer justement dans ces questions, dans cette complexité, dans ces ambiguïtés, dans cette hypocrisie aussi parfois, en écoutant le témoignage recueilli au cœur de l'Amazonie brûlée par Oriane Verdier pour son grand reportage diffusé sur RFI. Oriane a rencontré Lydia, qui est l'avocate des petits paysans, des petits agriculteurs, à qui on a donné, alors sans aide financière, des lopins de terre, en les chargeant de cultiver une partie de ces lopins de terre et d'en préserver une autre pour la forêt, mais sans aucune contrepartie financière. Donc ça, c'est vraiment une hypocrisie à grande échelle, encore accentuée par l'arrivée au pouvoir au Brésil de Bolsonaro, qui a encouragé l'exploitation, donc le déboisement des terres, intensifiant ainsi le nombre d'incendies. Je propose d'écouter d'abord un éleveur de vaches dans l'état de Rodonia. Quand Oriane Verdé l'a rencontré, Sergio était en train de brûler une partie de forêt sur sa parcelle, et ensuite l'explication de Lydia, l'avocate donc des petits agriculteurs d'Amazonie.
Je ne comprends pas vraiment quel est le rôle des associations et des ONG. Il y aurait 100 000 associations en Amazonie qui reçoivent beaucoup d'argent. À côté de ça, nous, les producteurs, nos comptes sont vides. On n'a même pas de quoi retirer 200 euros. Alors on travaille et on ne reçoit aucune aide. Comment ça se fait que tant d'argent arrive aux ONG et qu'il ne soit pas transmis ensuite aux agriculteurs? Si je recevais une assistance financière, je n'aurais eu besoin de déboiser que la moitié de la surface que j'ai déboisée. J'ai acheté en troisième, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu cette aide salaire du gouvernement. Je les ai achetés à quelqu'un qui lui-même les avait achetés à une autre personne. Mais ça fait 16 ans que je suis ici. Nous n'arrivons pas à avoir des documents officiels pour la terre. Donc on ne peut pas faire de crédit, par exemple. On est là complètement abandonné, aussi bien financièrement que techniquement.
Totalmente desassistido, tanto no lado financeiro quanto no lado técnico.
Aquelas pessoas que foram assentadas com aquele perfil que o Inca colocou.
Les personnes qui ont reçu des terres du gouvernement se sont lassées de vivre sans route, sans école, sans médecin, sans électricité, sans rien. Certaines d'entre elles ont donc vendu leurs droits à d'autres personnes. Mais ce qui se passe pour la majorité des agriculteurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont acheté des terres déjà brûlées, exploitées bien au-delà de la limite autorisée, et ils ont continué à la travailler. J'aimerais beaucoup que les pays étrangers qui aujourd'hui s'inquiètent pour l'Amazonie s'inquiètent pour les peuples qui y vivent. Ils vivent sur des terres du gouvernement dont ils ne sont pas propriétaires et aujourd'hui, ils sont sanctionnés. Voilà ce qui va se passer. On va obliger les gens à payer des amendes ou même on va les arrêter. Il vaudrait mieux venir et dire « Écoutez, voilà la stratégie que nous allons adopter à partir de maintenant. Vous allez être accompagnés par telle structure, vous allez replanter tel nombre d'arbres et travailler de telle manière et nous allons vous offrir une base. »
Vous voulez réagir au propos de cette avocate des petits paysans d'Amazonie enregistrée sur le terrain en Amazonie par Oriane Verdier, Joël Zask.
Oui, effectivement, je crois qu'il faut vraiment, dans la mesure du possible, distinguer entre des réalités incommensurables entre elles. Effectivement, le petit paysan, c'est toujours lui qui paye l'addition et qui est tenu pour responsable et sur qui repose le blâme, alors que le système latifundiste est un système qui détruit bien sûr non seulement les équilibres écologiques mais également le mode de vie de ces gens qui n'ont plus d'autre recours soit que de travailler pour le système latifundiste, la grande plantation. En l'occurrence, on le sait, la plantation de soja, si possible transgénique, ou l'implantation d'élevage de bétail. De même, à Sumatra, à Bornéo, à Java, tout est dévasté. En Indonésie, tout est dévasté au profit du palmier à huile. De même, au Chili, l'enfer des feux de forêt, il y a 2 ans, est lié à l'eucalyptus, biomasse donc rentable, qui pousse très vite, qui assèche les sols au passage. Donc voilà, c'est ce système de la plantation au sens de Anat Singh, de la plantation industrielle au profit, disons, qui nécessite aussi ce défraîchage grande échelle qui d'ailleurs est très problématique en France également. On met du pain Douglas absolument partout. C'est ce système,
vous appelez plantation, voilà. Mais qui est vraiment des grosses entreprises, absolument. Monoculture. En fait, le gros danger, ces méga-feux, ils sont suscités par ce système.
Absolument, parce qu'on met le feu pour défraîcher et parce que ces forêts sont fragiles et inflammables. Et c'est ce qui s'est passé aussi en Suède, hein, dont 70% des forêts sont industrielles et qui ont brûlé d'une manière jamais vue. Voilà. Donc les forêts industrielles, vous voyez, c'est des forêts ravagées par des tas d'insectes qu'on arrose de pesticides pour limiter les dégâts et qui, par ailleurs, sont d'une très grande fragilité et, bien sûr, alimentent les feux de forêt. Donc elles sont, comme à l'image d'ailleurs de cette forêt plantée par Ford, qui n'a pas brûlé, mais qui a été... justement, dans les années 1930...
aux États-Unis ?
Non, en Amazonie.
C'était en Amazonie.
Ford Landa, c'est en Amazonie. C'est une plantation d'EVA. Et Ford va faire incendier au kérosène 6 millions d'hectares de forêt amazonienne pour y implanter, justement, de quoi alimenter achalander ces usines de pneus en caoutchouc. Donc, voilà, c'est des histoires qui sont anciennes, mais disons que ce système s'est maintenu.
C'est vraiment ce système capitaliste, oui. Et monopolistique.
Monopolistique et qui crée aussi de la monoculture. C'est le cas d'ailleurs dans les Landes, dans les années 1830, grâce à Napoléon III, qui va transformer justement un paysage extrêmement varié, extrêmement complexe, qui est aussi d'ailleurs habité par des gens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours, comme le dit l'extrait, il y a toujours des gens qui habitent là et qui ont développé des politiques souvent pré-démocratiques, des arts, des manières de faire, des civilisations extrêmement riches. Et c'est tout ça qui est détruit avec la plantation l'action de Napoléon III en vue de la construction navale et en vue de l'industrialisation de la France.
Ça fait longtemps que ça dure, mais ce n'est pas une raison pour que ça continue.
Mais non, mais ça ne doit pas
d'autant
continuer.
Qu'aujourd'hui, les méga-feux sont partout sur la planète. Il y a aussi d'autres feux. Alors, des fois, on mélange les deux, notamment sur le continent africain, dans ce qu'on appelle l'autre poumon de la planète, hein, les forêts du bassin du Congo. Alors, sur le continent africain, très, très sensible et sensibilisé hein, par tous ces méga-feux, je propose un éclairage, justement, vu d'Afrique. C'est celui de Lynne Renée Batongué. Elle est journaliste scientifique en charge de l'environnement à la radio-télévision camerounaise. Et elle réagit, justement, aux photos qui ont été diffusées par la NASA en plein pendant les incendies amazoniens d'une forêt africaine en feu, encore plus en feu qu'en Amazonie. Je propose d'écouter Lynne Renée Batongué.
Les images de la NASA ont montré qu'il y a plus de feu en Afrique qu'en Amazonie. Mais le truc, c'est qu'en Afrique, en réalité, ce n'est pas la forêt équatoriale qui est en feu. Ce n'est pas la forêt verte. C'est beaucoup plus la savane. Mais même dans les zones forestières, il y a quelques points de feu par-ci, par-là. Car en Afrique subsaharienne notamment, les populations sont à 80% agricultrices et malheureusement pratiquent encore l'agriculture itinérante du brûlis, d'où tous ces signaux de feu par la NASA. Mais il faut également dire qu'il y a un autre phénomène en Afrique, que ce soit en zone forestière ou en zone sahélienne, c'est la production de charbon de bois qui accélère la désertification, mais qui pour produire ce charbon de bois-là, il faut faire du feu. Et c'est ce qu'on voit par-ci, par-là. C'est pour ça qu'à un moment, la production du charbon, si elle n'est pas canalisée par les pouvoirs publics, eh bien, c'est raser les forêts africaines. Et malheureusement aussi, raser le peu de ressources forestières qui se trouvent dans la zone désertique, dans la zone sahélienne. Par contre, si c'est une activité qui est très bien encadrée, eh bien, elle peut devenir une source de richesse pour les pays. Elle peut devenir une activité génératrice de revenus pour ces populations qui vivent dans ces zones fortement touchées déjà par l'avancée du désert.
Est-ce que pour terminer, vous auriez une question à poser à notre invité qui est avec nous en studio, Joël Zask, autour de la question « Pourquoi les forêts brûlent-elles ?» auteur du livre « Quand la forêt brûle ».
Aujourd'hui, évidemment, tout le monde est concentré sur les incendies qui se déroulent en Amazonie. Comment est-ce qu'elle perçoit le phénomène maintenant qui se passe en Afrique, c'est-à-dire ces forêts qui sont en train de partir également en feu, mais également ce Sahel qui est en train de disparaître, cette avancée du désert, non seulement à la déforestation, mais également à ces feux de brousse dus à l'agriculture itinérante du brûlis et puis à la production du charbon de bois.
Que pouvez-vous répondre, Joël Zask, pardon, à Lynne Renée Batongué depuis le Cameroun? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, un moyen d'encourager les bonnes pratiques tout en laissant effectivement les pratiques ancestrales du brûlis, du charbon de bois, de les encadrer ou de les prendre en compte, puisqu'on parlait des peuples qui vivent dans ces forêts, de la forêt, et qui doivent réapprendre, entre guillemets, à l'entretenir?
Il y a une notion canadienne qui est celle d'accommodement raisonnable et qui avait été créée par Bouchard et Taylor à l'occasion justement de peuples ou de cultures ou de groupes humains qui ne s'entendent pas et dont les valeurs sont assez incommensurables. Donc comment s'entendre? Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre ici. La situation est extrêmement complexe. La désertification, l'avancée du Sahel, l'inflammabilité des forêts est liée au réchauffement climatique. Il n'est pas lié qu'aux feux traditionnels, qu'aux feux de brousse. Ça fait des millénaires qu'on brûle la brousse, de même qu'on brûle le bush en Australie. Les aborigènes d'Australie ont d'ailleurs 12 ou 13 termes pour désigner différents types de feux. Donc, ils ont une culture du feu. Et les empêcher entièrement de recourir à ces pratiques ancestrales a été désastreux sur le terrain. Mais en même temps, les conditions de réchauffement climatique, les conditions d'élévation de température, les conditions de sécheresse qui sont liées à ce réchauffement sont telles, de phénomènes extrêmes aussi, sont telles qu'il y a une nouvelle donne.
Donc, il y a une nouvelle donne et puis il y a plus de 7 milliards d'humains sur Terre aussi.
Et puis il y a de plus en plus de gens. Voilà. Mmh. Donc, clairement, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que plus les forêts, d'une certaine façon, sont habitées occupée, notamment par les gens et leurs troupeaux, et moins elle brûle. Et ça, c'est quelque chose qui est... moins elle brûle dans le cadre du régime du méga-feu. Ça ne veut pas dire qu'il y a... Comme je l'ai dit d'ailleurs au départ, le nombre de foyers n'est pas significatif. C'est l'étendue des feux qui l'est.
Puisque, c'est l'étendue, l'intensité qui les rend méga.
Voilà, hein, c'est ça. Hein. Et surtout, ouais, leur étendue, comme on l'égrène sur les médias, 10 000 hectares, 100 000 hectares, 200 000 hectares, etc., qui partent en fumée. Donc voilà, l'aspect quantitatif en termes d'hectares, de surface brûlée, est vraiment déterminant ici. Donc ça n'a rien à voir avec les petits feux d'entretien qui, en général, sauf accident, sont limités à des parcelles étroites. Ça n'a rien à voir non plus avec les grands feux générés par des activités illégales dans les forêts ou par les plantations, qui, là aussi, sont aussi destructrices que possible. L'accident, finalement, étant toujours bienvenu, puisque ça fait plus de place, de zones, soit à construire, soit à planter.
Donc c'est compliqué de faire le...
Je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais qu'en même temps, il est vrai qu'il y a une nouvelle donne, mais il est vrai aussi que, par exemple, en Australie, aujourd'hui, les responsables aménagistes, si vous voulez, des parcs et des forêts, collaborent avec les aborigènes australiens pour apprendre d'eux des techniques de prévention, des techniques de brûlage dirigé qui permettraient de gérer la quantité de matière sèche sur place. Et pourquoi pas, on en parlait justement ce matin avec quelqu'un, pourquoi pas de produire aussi ce charbon de bois qui, après tout, pourrait être considéré comme une alternative à certaines formes de production énergétique.
Autour de la question comment reprendre soin en collaboration avec elle d'ailleurs, et en collaboration entre nous humains de notre forêt, vous avez choisi, Joël Zask, d'écouter un duo qui soigne justement. C'est Vincent Segal au violoncelle, Balaké Sissoko à la cora. On écoute Diabaro sur RFI.
Autour de la question.
Alla devi yo so Alla devi yo so Conitora la co Alla devi yo so Conitora la co alla devigioso
Sissoko et Vincent Segal sur RFI. Autour de la question pourquoi la forêt brûle en votre compagnie, Joël Zask, et pourquoi cette crise écologique sans précédent est un symptôme de notre société malade, un avertissement, un signe à écouter absolument. C'est tout le sens de la question que vous pose tout de suite Philippe Hénarejos du magazine Ciel et Espace.
Est-ce qu'on est en train d'assister à l'échelle de la planète au même phénomène qui a conduit à la disparition des forêts sur l'île de Pâques? C'est-à-dire, on le voit arriver de manière assez douce, mais du coup inéluctable. Et collectivement, a-t-on la conscience de ça?
Que pouvez-vous répondre, Joël Zask?
Non, je ne pense pas personnellement que la situation soit inéluctable. Le fait est qu'on est obligé de noter un contraste C'est-à-dire que nous sommes tous plus ou moins, enfin je dis tous, voilà, peut-être que le problème est culturel, mais beaucoup d'entre nous sont prêts à affronter ou à subir de grandes catastrophes. On vit dans des zones de tremblements de terre, au pied de volcans, on a des maisons dans les bois, et en même temps on est incapable de faire des changements réformistes, progressistes, qui nous emmèneraient vers un véritable horizon qui permettrait à l'échelle peut-être même de la planète ou au moins d'un pays de nous remettre en quelque sorte sur les rails d'un projet de civilisation. Et je pense que si tout était inéluctable, bien, nous ne ferions plus rien. Mais en même temps, je crois que le sentiment d'inéluctabilité est beaucoup plus lié à cette pétrification face à la catastrophe qu'il faut éviter à tout prix. Et justement,
en se trompant, de remèdes et de questions et de problèmes, finalement.
Il me semble.
En restant sidéré devant les images, mais sans repartir à la racine, et c'est ça ?
Et voilà, en se démunissant de nos pouvoirs d'action qui sont bien présents et auxquels les jeunes, par exemple, qui marchent pour le climat, font appel en s'égosillant, et un peu comme des voix dans le désert, puisque je pense qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés, alors que leur parole est souvent très juste, très précise, très judicieuse, très honnête, frappée au coin du bon sens. Ils ouvrent un chemin, ils nous disent « écoutez les scientifiques, regardez autour de vous, pensez aux générations futures, faisons quelque chose ensemble ».
Et ensemble, justement, mais en ensemble, l'occurrence, voilà. Développons une culture du feu, c'est ça, qui nous soit commune, en s'inspirant de tous les savoirs, en fait.
En fait, oui, dans la mesure où on peut, disons, hisser le feu au rang d'une image de civilisation, comme c'est le cas depuis les plus vieux mythes, et notamment celui de Prométhée, mais aussi en même temps en détournant le mythe, c'est-à-dire que le feu n'est pas l'instrument de la domination de la nature, mais le feu devient l'instrument ou la lunette par laquelle nous pouvons contempler les désastres auxquels nous amène finalement le développement unilinéaire, un peu autiste de notre propre civilisation. Et finalement, contre cet autisme, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il n'est pas trop tard, mais que, disons, la sidération face à la catastrophe participe de cet autisme et que le catastrophisme ou l'effondrisme ne sont pas plus, ne sont pas plus porteurs, ne sont pas plus judicieux à l'heure actuelle que le climato-scepticisme.
Voilà qui est dit, Joël Zask. En tout cas, pour en savoir plus, justement, pour prendre conscience à la fois des risques, des dangers, de la complexité de ces méga-feux qui sont une méga-complexité, mais aussi des pistes pour s'en sortir, parce qu'il y en a. Effectivement, je ne saurais trop conseiller la lecture de votre livre brûlant, Quand la forêt brûle, sous-titré Penser la nouvelle catastrophe écologique, qui vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. Et puis, je signale aussi à nos amis auditeurs le grand reportage d'Oriane Verdier, diffusé sur RFI, au cœur de l'Amazonie brûlée, le combat des guerrières indigènes, diffusé le 16 septembre, et bien sûr réécoutable et podcastable. Merci beaucoup, Joël Zask, d'avoir fait le voyage depuis Marseille.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Nicolas Benita à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses et Caroline Achowski au micro pour de nouvelles interrogations sur les algorithmes. Autour de la question, pouvons-nous faire confiance aux algorithmes ? Piste de réponse inattendue du chercheur en informatique Rachid Guerraoui, professeur invité au Collège de France en 2019. Sur la chaire informatique et numérique. À demain pour en savoir plus sur nous et sur nos machines. Merci de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.